Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
What time is it?
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 316 du podcast Jean Actuel Amaté. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Raphaël, bien, on t'a pas vu pendant quelques temps, passer de bons moments. On va pas dire tout, mais
non.
C'est comme Camille, c'est un peu agent secret, ça voyage beaucoup.
Hein. C'est ça.
On va juste dire ça. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, tous les dimanches soirées, Game On au Hard Rock Café Paris, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket avec 6 bières au prix de 5 également, et évidemment les rencontres NFL, ne ratez pas ça. On fait le bilan des Browns cette semaine, la hype est morte et c'est pas joli à voir, le réveil des Eagles, les limites des Bills, le potentiel des Niners, on va parler de tout ça et de tous les matchs de la semaine. On va commencer avant ça quand même par un petit mot gagnant, puisqu'on vous fait gagner des trucs maintenant dans les émissions. La semaine dernière, on vous a gagné un programme du match à Londres entre les Bears et les Raiders. C'est Nicolas qui l'a gagné. Son pseudo Twitter, c'est @parmo25. On lui enverra un petit message privé pour avoir son adresse et on lui enverra tout ça. Cette semaine, on vous fait gagner des places pour le match France-Serbie qui a lieu le 9 novembre. La Fédération française nous a filé plein de places à vous faire gagner. On en a 10. Alors, en fait, on en a 20 au total à faire gagner. On va en faire gagner une dizaine sur le site. Mais on veut en faire gagner une dizaine spécialement aux auditeurs, comme ça on est sûr que c'est des gens qui écoutent l'émission et qui aiment le football américain qui auront celle-là. C'est très simple, on va même pas faire de retweet, de machin, de truc. On a une adresse email qui s'appelle concours@jeanactu.com, concours@jeanactu.com. Vous envoyez un mail disant « je veux une place ». Et les 10 premiers ont une place pour le match France-Serbie. C'est le 9 novembre à Villeneuve-d'Ascq. Évidemment, essayez d'envoyer un mail si vous êtes sûr de pouvoir aller à Villeneuve-d'Ascq. Si vous prenez une place, essayez quand même de pouvoir y être, que ça ne prive pas quelqu'un qui aurait pu être sur place. Mais voilà, donc on a 10 places. Les 10 premiers emails envoyés à concours@touchjeanactu.com disant « je veux une place pour France-Serbie », eh ben c'est pour vous. Voilà comment on fait. On a des cadeaux pour tout le monde maintenant. Ça rigole
c'est
plus,
la fête, hein. C'est la fête.
Sur ce, c'est parti pour le débrief de la semaine 8. Snap out of the gun. Oh, he tosses it right into the arms of Lawrence Guy. You gotta be kidding me. Oh my goodness, it's just they turn it over now. Three consecutive plays. C'est terminé pour de bon, la hype des Browns, ils retombent sur terre, les Patriots l'emportent 27-13 dans cette semaine 8 et avec une séquence qu'on a entendue dans le jingle, Raphaël, assez terrible, 3 actions, 3 turnovers, fumble arraché pour un touchdown, fumble arraché, puis interception de Lawrence Guy avec un ballon quand même qui lui a été balancé à la cuillère directement par Baker Mayfield. La séquence a l'air quand même assez ridicule. On a décidé de faire un bilan de mi-saison de cette équipe. Pourquoi? Parce que c'était une des attractions de l'intersaison. Parce qu'on va le dire aussi, Raphaël, quand on prépare les émissions, on a vu qu'on arrive à la mi-saison et qu'on commence à avoir des fois peur de faire des redites. Donc, on va chercher des thèmes un peu différents aussi de temps en temps. Donc là, bilan de l'intersaison, bilan de la mi-saison, pardon, pour les Browns. C'est quoi le souci numéro 1, Raphaël, avec cette équipe qui est donc assez largement en dessous du niveau attendu?
Je sais pas s'il y a un souci numéro 1, parce qu'en fait j'en vois. Le premier étant une ligne offensive complètement à la ramasse qui ne facilite pas le jeu de Baker Mayfield et de ses camarades. Le deuxième, et qui est lié au troisième, c'est l'indiscipline générale qui règne chez les Browns en ce début de saison et qui est liée à mon avis à l'inexpérience de Freddie Kitchens, leur coach principal. Sur ce match encore, t'as 13 pénalités pour les Browns et 3 turnovers. Et la pénalité à laquelle je pense, c'est notamment celle où les Browns sont menés 10-0 après le fumble de Nick Chubb. Ils forcent les Patriots à punter. Ils font une erreur qui relance les Patriots. Derrière, les Patriots marquent à nouveau. Enfin, voilà, c'est une équipe totalement indisciplinée depuis le début de la saison et ça se paye beaucoup trop cher en NFL et encore plus face à des Patriots. Là, c'est évident.
Tu l'as bien dit, c'est l'équipe tout simplement la plus pénalisée de la Ligue. Donc déjà, ça c'est énorme. C'était leur deuxième match avec au moins 13 pénalités. Donc c'est quand même assez énorme. Et tu as bien tout résumé. Mayfield a pris 21 sacks. Donc ça, évidemment, ça fait mal aussi. C'est pas le pire de la NFL, mais c'est dans le tiers le plus haut, on va dire. Et Mayfield est quand même le quarterback le plus intercepté de la Ligue à égalité avec Jameis Winston. Donc évidemment, c'est pas les mêmes conditions, mais la ligne le mettant pas à l'aise, il peut pas vraiment progresser et confirmer ce qu'il a vu l'an dernier. Alors tout n'est pas de la faute de la ligne, il y a aussi un peu pour lui, hein. Mais ça crée ces conditions-là où il se retrouve quand même à être très très intercepté. Il y a énormément de déchets. Ils ont 17 ballons perdus. Ils sont avant-derniers juste devant les Giants. Il y a que les Giants qui ont perdu plus de ballons que les Browns.
Voilà, tu viens de le dire. À partir du moment où c'est l'équipe la plus pénalisée de la ligue, c'est la deuxième équipe qui perd le plus de ballons. Le bilan à deux victoires pour cinq défaites. Ouais. Bah, voilà, enfin, faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Et forcément, t'es obligé de soulever la question du coaching parce que à ce niveau-là, en mi-saison, avec les joueurs, le talent qu'il y a dans cet effectif, avoir une équipe aussi indisciplinée qui perd autant de ballons, l'ami Kitchens, ça sent quand même pas très bon.
Est-ce que justement c'est pas, je vais essayer de prendre le contre-pied et d'être positif, est-ce que c'est pas rassurant que leur problème soit principalement de la discipline? Parce que c'est un truc qui est plutôt solvable.
Oui, c'est effectivement, on peut le voir comme ça en se disant qu'en étant un peu plus sérieux, appliqué, ils peuvent vite remonter la pente. Maintenant, la question et le point, c'est est-ce qu'ils peuvent redevenir disciplinés avec ce coaching staff-là? Et c'est à ça que les dirigeants doivent réfléchir. J'ai pas forcément de réponse sûre et certaine à ce niveau-là, mais est-ce que l'indiscipline peut disparaître avec le même coaching staff possible? Mais c'est pas certain. C'est pas une situation... C'est à la fois, comme tu dis, c'est facile à régler parce qu'il faut être sérieux, mais il faut trouver qui peut amener ce sérieux, quoi.
Moi, je vais voir à deux niveaux, à la limite, tu vois, le positif, c'est que le coaching staff, t'as bien raison de le mentionner, il va y avoir un juge de paix très rapide, c'est leur calendrier. Ils ne jouent plus que deux équipes avec un bilan positif. Donc, en théorie, ils doivent se redresser. Ils jouent la suite pour eux, c'est Broncos, Bills, Steelers, Dolphins, Steelers, Bengals, Cardinals, Ravens, Bengals. Donc dans les faits, c'est tout à fait abordable de remonter la pente là-dessus. Ils doivent prendre les Bengals deux fois, ils doivent prendre les Dolphins une fois, donc ça fait trois victoires. Les Steelers, ils peuvent en prendre un, ça fait quatre. Les Broncos, en théorie, ils peuvent gagner à minima 5 ou 6 matchs et finir l'année équilibré. On va dire c'est ce qu'on attend au minimum.
Là, j'ai envie de dire, il n'y a plus vraiment le choix parce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont capables? On les voit difficilement aller chercher des Ravens, on les voit pas forcément aller chercher les Bills, quoique on pourra y revenir. Et en même temps, tu vois, quand tu me dis ce calendrier-là, je me dis qu'ils peuvent même finir un peu au-dessus du bilan équilibré. Mais
Ouais, mais en fait, j'ai envie de dire que 8-8, c'est le minimum syndical
oui.
pour dire ok, on continue avec Kitchens et on a du et
oui.
on a de la suite.
Oui, là-dessus, je te rejoins.
Voilà. Et s'ils se relèvent pas de ça, par contre, s'ils finissent à, je sais pas, 5 victoires, par exemple, ils sont à 2-5, s'ils finissent qu'à 5 ou 6 victoires, bon, bah là, tu dis, on met des mecs plus expérimentés, plus sérieux pour tirer le meilleur de ce groupe-là, quoi.
Bon,
on a à peu près, du coup, on a à peu près le plan de jeu, quoi. On voit sur la fin de l'année ce que fait Kitchens et s'il arrive à rediscipliner un peu ce groupe-là, et puis sinon. Mais encore une fois, du coup, je trouve ça presque positif parce que tu peux presque te dire, si ça a pas marché avec Kitchens là, bah pendant l'intersaison, on blinde la ligne offensive, on prend un coach plus expérimenté, et en théorie, on a des chances l'année prochaine.
Mmh. Oui, non, mais il y a rien de catastrophique pour l'avenir à long terme, on va dire, de cette équipe. Elle reste jeune, elle reste talentueuse. C'est dommage de potentiellement perdre une année sur le contrat de Baker Mayfield, on va dire. C'est potentiellement dommage, mais il y a quand même des bases intéressantes pour la suite.
De Mayfield et de Garrett, d'ailleurs, parce que Miles Garrett performe très fort. Je crois qu'il a 9 sacs ou quelque chose comme ça, donc il y a un moment où il faudra le payer aussi. Mais bon, voilà, voilà pour le bilan, en tout cas. On le voit, que problème de coaching, problème de discipline. Solvable, à voir. En tout cas, Freddie Kitchens a clairement en sursis hein, là, sur la fin de l'année. Il va être clairement observé. Un mot sur les Patriots, parce que c'est quand même eux qui ont gagné ce match. Et alors là, on sait plus quoi dire sur cette défense. Les stats sont délirantes. Ils ont 31 sacs. Ils sont numéro 1 NFL. Ils sont à plus 17 sur les turnovers. Ils ont volé 25 ballons. Ils sont numéro 1 de loin parce que les deuxièmes au classement des ballons volés, ils ont 16 ballons volés. Ils sont à 25. Donc ça fait 9 de plus que n'importe quelle autre équipe en NFL. Ils ont 19 interceptions. Ils sont à plus 189 de différentiel sur les points. Et ils ont maintenu les quarterbacks adverses à une évaluation moyenne de 40,6. C'est délirant. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur cette défense de New England.
Non, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est une équipe qui est excellemment bien coachée, avec des joueurs qui sont en train de réaliser la saison de leur vie pour la plupart. Je pense au McCourty, je pense à Gilmore. On a le retour d'un Jimmy Collins qui, après avoir vu que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, fait une énorme saison. On a Etower, on le présente même plus, mais tout ça est bien coaché par un Bill Belichick qui a su, et ce qui est peut-être le plus fascinant, qui a su réinventer son équipe en faisant de la défense depuis 2-3 ans, peut-être le point fort finalement de cette franchise.
Ce qui est assez dingue quand même, c'est que cette défense, elle n'a pas eu de recrutement particulier, il n'y a pas eu de changement particulier pendant l'intersaison. Ils ont même perdu Trey Flowers, qui était quand même leur meilleur sac l'an dernier. Et ils sont encore meilleurs que l'an dernier. C'est ça qui est le plus incroyable, je crois.
Ouais, c'est ça qui est le plus incroyable. Et si tu rajoutes à tout ça qui est bien fait, un calendrier favorable en ce début de saison qui permet d'amplifier l'effet excellent, bah voilà, ça te donne ce chiffre-là. Et une équipe qui, pour le moment, n'a pas besoin d'être bonne en attaque, parce que en attaque, c'est bon, mais on a connu quand même des Patriots bien plus brillants en attaque. Après, il y a des soucis sur la ligne offensive. Il y a un vrai souci au poste de tight end. On le voit avec les rumeurs où ils essayent de faire venir un peu tout le monde. Mais les Patriots, actuellement, n'ont pas besoin de ça avec cette défense. Donc, c'est que de bon augure pour la suite. Et il va falloir, encore une fois, se lever tôt. Parce que là, à 8-0, c'est quasiment acquis qu'ils seront tête de série en AFC. Voilà.
Ah oui. Surtout avec la blessure de Pat Mahomes, donc il n'y a personne qui les suit. Hein.
Encore une fois, il va falloir aller les chercher à Boston en hiver. Voilà, bon courage.
Non, et comme tu l'as dit, l'attaque gagne que 318 yards sur ce match, mais il y a des linemen blessés, il y a un jeu au sol qui est limité. C'est presque ça le plus flippant, en fait, c'est de se dire qu'ils vont finir par trouver des solutions. Au moment où on se parle, on enregistre quelques heures avant la trade deadline. Ça se trouve, ils vont trouver un tight end ou un lineman de quelque part, et puis ils vont encore améliorer cette défense, cette attaque, je vais y arriver, au fil des semaines. Et ça va faire une équipe très très dure à arrêter, encore une fois. Bill Belichick est le troisième coach à 300 victoires en carrière. Il a gagné son 300e match ce dimanche. On reste avec une équipe de la division AFC Est, puisqu'on passe aux Bills 13, les Eagles 31. Est-ce que on dit revoilà les Eagles, ou bien on dit on a vu les limites des Bills?
Je vais être un peu pessimiste, je vais surtout dire on a vu les limites des Bills, à mon avis, qu'on supposait un peu quand même sur plusieurs matchs cette saison. On a l'impression que cette équipe des Bills a pour le moment une sorte de plafond de verre en attaque autour de 20 points. Et elle n'arrive pas à aller au-delà, et en NFL, tu ne peux pas gagner tous les matchs si tu n'es pas capable de mettre plus de 20 points, surtout contre des attaques comme celle des Eagles, qui certes étaient pas bien jusque-là, mais qui elles ont un potentiel de mettre 30, 35 points dans un bon jour. Et ça s'est vu. Et pour le moment, les Bills sont pas capables de faire ça. Est-ce que c'est que Josh Allen? Je suis pas certain non plus. Moi, je trouve quand même que il est pas si bien entouré que ça.
Non, il y a pas beaucoup de cibles. Il y a un peu un syndrome Cam Newton. Carolina, rarement entouré de très bons receveurs. Après, il complète moins de 50% de ses passes.
Mais
253 yards en attaque, c'est compliqué. Hein.
Lui a des défauts, hein. Clairement. Il a des vrais problèmes de lecture, et notamment sur les passes en profondeur. C'est une catastrophe quand la balle doit voyager plus de 15 yards dans les airs. Ça devient panique à bord. Après, voilà, c'est leur plafond. Si on veut être optimiste, on va dire que... ils peuvent se concentrer là-dessus dans les mois, semaines, intersaisons à venir. C'est vraiment le point à modifier, parce que de l'autre côté du ballon, même si ça a été un peu dur la face à ces Eagles, ça se tient globalement, que ce soit la ligne défensive, le backfield défensif.
Après, ils sont dans ce cliché de l'équipe qui doit absolument avoir gros jeu au sol et grosse défense pour gagner. Quoi. Là, leur jeu au sol est stoppé, donc Josh Allen est exposé et ils perdent.
Oui, non, mais du coup, c'est
un peu simplifié, mais...
Oui, non, mais c'est ça. Du coup, c'est peut-être eux un peu dommage de ne pas les voir, je trouve, dans les rumeurs, là, pour le moment, autour des trades, parce que essayer d'aller sortir un AJ Green qui n'a plus rien à jouer à Cincinnati, par exemple, essayer d'aller chercher un tight end. Il y avait des rumeurs comme quoi les Patriots voulaient O.J. Howard des Bucks. Enfin, c'est un tight end qui ferait vachement de bien à cette équipe de Buffalo aussi, donc... Bon, on va voir, hein, on va attendre la fin de la deadline, mais comme tu dis, il y a ce plafond offensif qui est un peu inquiétant, parce que on voit pas vraiment de progrès en attaque, je trouve, depuis le début de saison, quoi.
Ah bah oui, non, mais clairement, là, ils ont un plafond, et pour moi, je vois pas comment ils peuvent aller en play-off, parce qu'ils ont le calendrier, ils ont pris de l'avance au niveau des matchs et tout ça, mais... Clairement, ils ont cette disposition, encore une fois un peu cliché, mais un peu façon Ravens l'an dernier quand Lamar Jackson prend le pouvoir, qui est si on les empêche de courir, a priori ça se complique, la défense passe plus de temps sur le terrain et ainsi de suite. Là, les Eagles mettent quand même 218 yards au sol. Alors les Bills prendront pas ça toutes les semaines. Philadelphie s'est clairement réveillé, avait envie de d'aller au mastic un peu pour une fois, et Philadelphie est quand même sur un match best case scénario, quoi. 218 yards au sol, Fletcher Cox qui sort de sa planque avec un sac et demi et deux quarterback hits. Ils ont eu l'air de retrouver leur ligne, mais je suis un peu comme toi. À la question, j'aurais aussi répondu, on voit plus les limites des Bills. Ils ont retrouvé leur ligne, l'attaque est prometteuse. Tu te dis qu'en plus, ils peuvent récupérer DeSean Jackson, et que s'ils arrivent à poser le jeu au sol comme ça, du coup, l'attaque sera pas bonne à prendre. Mais ça demande confirmation, quoi.
Oui, c'est ça, ça demande confirmation, et je pense notamment du côté de leur défense aussi, et leur backfield défensif qui a été exposé plus d'une fois cette saison. Là, ils prennent que 13 points, mais parce qu'en face, il n'y a pas de vraie menace dans le jeu aérien. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont retomber sur Amari Cooper, quand ils vont retomber sur d'autres équipes un peu plus fortes dans la ligue? Donc, va falloir attendre de leur côté. Après, toute victoire est bonne à prendre, notamment face à des Bills qui sont pas faciles à jouer. C'est l'essentiel, hein.
49ers 51, Panthers 13, énorme démonstration des Niners. Alors à chaque fois on leur cherche des tests, à chaque fois ils les passent avec brio. Alors est-ce qu'on dit encore l'équipe en face est trop faible là, ou alors est-ce qu'on se demande est-ce que c'est la meilleure équipe de la NFC, parce que c'est la dernière équipe invaincue de la NFC?
Écoute, l'équipe en face n'était pas trop faible à mon sens, elle arrivait quand même sur un bilan de 4-2, et puis tu passes pas 50 points en NFL comme ça non plus, non. T'es pas à 7-0 non plus comme ça. J'avoue que moi j'ai longtemps été un pessimiste de ces 49ers en pensant que le calendrier les aidait, qu'il y avait un peu de sur-régime, tout ça. Force est de constater, comme tu le dis, semaine après semaine ils passent les tests, et surtout ils passent les tests en gardant la même identité et les mêmes qualités. C'est pas une semaine ils ont un peu de chance parce que Garoppolo fait un grand match, une semaine ils ont un peu de chance parce que ceci, c'est toujours pareil, c'est ils imposent leur jeu au sol à qui ils veulent. Les coureurs courent, il y a encore plus de, là c'est, j'ai noté 232 yards. Voilà, encore 232 yards au sol. C'est l'équipe qui derrière les Ravens tient le plus longtemps la balle en match, 34 minutes en moyenne par match. Ils imposent ce jeu au sol avec des schémas en attaque excellents de la part de Kyle Shanahan, qu'on retrouve un peu en termes d'esprit offensif qui est un vrai régal à avoir joué. Et leur ligne défensive est absolument monstrueuse. Elle facilite la vie d'un backfield défensif qui est pas le plus talentueux, mais qui se retrouve avec un quarterback adverse qui lance la moitié des ballons en panique totale parce que il a Bosa qui lui arrive dessus, Amstrid, Buckner, tout ça. Donc eux, les clés semaine après semaine, les clés sont mises et en plus ils le font presque de mieux en mieux. Ils courent de mieux en mieux, ils défendent de mieux en mieux. À ce niveau-là, il y a plus qu'à dire bravo et on va voir jusqu'où ça peut aller.
Moi, en fait, je suis d'accord avec toi sur l'identité. Tu disais, ils courent contre n'importe qui. Et en fait, je crois que je les attendais trop. Et peut-être que ça l'a fait à d'autres gens, mais je crois que je les attendais trop dans le domaine de dire faudra un test. C'était de dire, faudra aussi voir quand Jimmy Garoppolo sera testé. Mais en fait, finalement, ils n'ont peut-être pas besoin que Jimmy Garoppolo soit testé, puisque en effet, ils pulvérisent tout le monde au sol. Donc ça, c'est assez énorme. Tu l'as dit, leur défense est très bonne aussi. Ils sont la meilleure défense sur les yards autorisés, puisqu'ils autorisent que 224 yards par match. Ils ont un Nick Bosa à 3 sacks sur ce match et un fumble forcé qui est en train de devenir un des meilleurs défenseurs de la NFL déjà. Mais vraiment, pour revenir sur Garoppolo, je pense qu'on était un peu beaucoup à attendre ce « bon, bah voilà, là, ouais, ils courent bien, mais il y a un moment où ils vont être stoppés au sol et Garoppolo va devoir faire un gros match, etc. » Mais en fait, pour l'instant, ça me rappelle un peu, et c'est peut-être très bien géré de la part de Kyle Shanahan, parce qu'on attendait du grand Garoppolo. Finalement, il a peut-être aussi besoin de rentrer dans son rôle de titulaire encore un peu. Et ça me rappelle un peu un Russell Wilson au début avec les Seahawks, tu vois, avec un gros jeu au sol, et qui va peut-être pouvoir aller chercher les grosses actions. Ça, on le saura en play-off, on le saura un peu plus tard. Mais grosse défense, jeu au sol, et un quarterback suffisamment bon pour aller chercher les gros jeux, mais à qui tu ne le demandes pas tout le temps, et à qui tu laisses le temps de mûrir dans ce rôle-là. Et peut-être que dans 3, 4, 5 ans, Garoppolo sera encore plus fort avec les 49ers et Shanahan, si ça marche bien, etc., et qui pourra le faire. Mais là, en fait, c'est hyper bien géré, quoi. J'ai juste cette impression-là.
Oui, non, c'est hyper bien géré. Je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de remises en question de la part du coaching staff après l'année dernière qui n'était pas flamboyante. Enfin, en défense, c'était vraiment difficile. Là, tu sens qu'il y a beaucoup plus d'agressivité. Il y a aussi, ils sont aidés par des premiers choix de draft, enfin des premiers tours de draft qui performent enfin sur la ligne défensive. Mais bon, ils les avaient choisis pour une bonne raison. Donc non, c'est une vrai beau début de saison pour les 49ers. Et clairement, on peut plus juste dire que c'est une équipe qui a de la chance.
Les Panthers, eux, par contre, retombent un peu sur terre. Kyle Allen n'avait jamais été intercepté en NFL. Là, il en perd 3. Pour l'instant, bon, a priori, il perd quand même les espoirs de piquer la place de Cam Newton.
Ouais, alors, personnellement, j'y ai jamais cru. Ou alors, les Panthers étaient assez étonnants. Mais oui, moi, je suis pas surpris, clairement.
Après, je disais que les Bills ne prendraient pas tout à l'heure plus de 200 yards au sol par match régulièrement comme ça. Je ne pense pas que les Panthers prendront un bouillon défensif comme ça régulièrement. Ils restent quand même dans la course au play-off.
Ils restent dans la course au play-off, dans une NFC qui est assez serrée, assez homogène. Ils ont malgré tout encore montré quelques belles choses. Enfin, il y a des belles courses de Christian McCaffrey. Il y a un pass rush qui a encore produit des sacks, cette fois par Bruce Irvin. Donc il y a quand même des solutions en défense pour apporter de la pression. Donc c'est un match sans. Enfin, c'est une meilleure équipe qu'eux, tout simplement. Mais oui, ça reste en course pour les playoffs.
Bruce Irvin qui avait un peu la rage après la rencontre. Je ne sais pas si tu as vu sa déclat. On lui demandait si les 49ers étaient bons ou très très bons, je ne sais plus. Il a dit oh, ils sont bons, ils ne sont pas excellents, mais ils sont bons. Le mec vient d'en prendre 50. Ouais. Voilà pour les matchs de la semaine. Petit jingle londonien et toutes les autres affiches.
Hey, this is Johnny Hecker, punter from the LA Rams, and you are live in the Touchdown Podcast.
This is Josh Reynolds from the LA Rams, and you're on Touchdown Podcast.
Toutes les autres affiches NFL de la semaine après ce petit jingle où on a parlé à Johnny Hecker et à Josh Reynolds. Merci à Victor Roulier qui a enregistré ça dans les vestiaires pour Touchdown Actu. On commence avec le Chiefs-Packers qui aurait pu être une grande affiche avec Patrick Mahomes, mais qui a été une bonne affiche sans Patrick Mahomes. Les Chiefs se sont bien défendus. Il a fallu un grand Aaron Jones qui est quand même en train de devenir le coureur polyvalent qui manquait à Green Bay depuis des années. Il a plus de 200 yards à lui tout seul, 67 au sol, 159 à la réception.
Ouais, ouais, et c'est vraiment une super nouvelle pour Green Bay, d'autant plus que les squads de receveurs est assez dépeuplé, on va dire, ces derniers temps du côté de Green Bay. Donc, pouvoir se baser sur un joueur aussi polyvalent à la course et à la réception pour Aaron Rodgers, c'est forcément une très bonne nouvelle à ce niveau-là. On avait des doutes un peu l'an dernier, je me rappelle, sur Aaron Jones. Force est de constater que avec Matt LaFleur, ça se passe beaucoup mieux qu'avec Mike McCarthy. Donc, tant mieux pour les Packers. C'est les Packers qu'on voit depuis quand même 2-3 semaines, j'ai envie de dire, qui sont bons en attaque, décisifs en défense, avec ce turnover provoqué sur le Sean McCoy pour faire la différence.
J'aime bien quand tu hésites sur quand tu dis décisif. Mais pas dominant en défense, parce que j'allais te dire, oui, ça fait quand même 5 matchs de suite qu'ils encaissent au moins 22 points par contre. Avait très très bien commencé, c'est un peu moins fort ces derniers temps.
Ils sont clairement pas dominants en défense, maintenant, t'as pas toujours besoin d'une défense dominante en NFL, et il faut souvent, même plutôt, une défense qui est capable de créer des big plays, des turnovers, ce qu'ils sont capables de faire à l'heure actuelle, et... ce qui peut les porter assez loin d'ici la fin de saison. Donc, pas dominant, décisif, ouais.
Disons que tu as besoin d'une défense dominante quand ton quarterback c'est Mitchell Trubisky ou Lamar Jackson, et tu as besoin d'une défense décisive quand c'est Drew Brees ou Aaron Rodgers ton quarterback. Matt Moore, comme on l'avait dit ici, avec Andy Reid, finalement ça tient plutôt pas mal. Il a 24 sur 36, 267 yards de touchdown. Il y a tellement d'armes que finalement il peut faire le taf. Alors là il y avait du gros en face, mais il pourra en arracher quelques-uns.
Ah oui, c'est sûr, il pourra en arracher quelques-uns dans une division face aux Chargers, aux Broncos, il peut aller en chercher. Donc je pense vraiment les Chiefs, maintenant que j'ai presque envie de dire que la première place est perdue d'avance en AFC, autant ne pas précipiter le retour de Patrick Mahomes. Ça marche avec Moore de manière assez efficace grâce au casting autour, donc autant continuer un peu avec lui, laisser Mahomes se reposer et on verra la suite.
Ouais, puisque c'est ce qu'on avait dit, leur gros avantage aussi c'est que ça perd dans la division, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, mais les Raiders ont perdu, les Chargers gagnent, mais les Chiefs sont à 5-3 alors que les Raiders sont à 3-4, les Chargers sont à 3-5 et les Broncos sont à 2-6, donc honnêtement ils sont à l'abri, Kansas City, surtout que Mahomes a l'air de déjà tâtonner pour revenir. Donc ça peut être, mais tu le disais, là ils jouent les Vikings, ça va être encore dur. Derrière il y a Titans et Chargers qui, même avec Matt Moore, à mon sens,
sont prenables,
plutôt prenables. Ouais. Saints 31, Cardinals 9. Drew Brees, tiens, on en parlait, de retour, 373 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Latavius Murray qui a bien remplacé Alvin Kamara et qui m'a bien dézingué en fantasy football. Je suis le mec qui est tombé sur Latavius Murray qui était en feu. 510 yards au total pour New Orleans. Ils sont quand même assez terrifiants maintenant. Il y a la défense qui est toujours aussi forte.
Ah bah quand le shérif revient en ville, tout de suite ça prend quand même une autre dimension, et sans faire injure à Teddy Bridgewater qui s'était bien débrouillé, qui était à 5-0, là offensivement tout d'un coup ça a une autre dimension quand même, c'est une autre gueule. Tu sens que c'est une équipe bien plus solide et bien plus dangereuse avec Drew Brees en attaque. Et puis il y a cette défense et notamment ce front seven, on va dire, qui est vraiment vraiment excellent encore une fois. Cameron Jordan très haut niveau. La stat la plus incroyable, je trouve, sur ce match, c'est leur comment ils ont défendu les courses de Kyler Murray, puisqu'on sait que depuis le début de saison, Kyler Murray aime bien quand même un peu échapper de la poche. Ils l'ont très bien défendu. Il a que 13 yards au sol, Kyler Murray, son plus bas total de la saison, parce que t'as vraiment ce front seven qui est capable de très bien défendre la course, même quand elle vient du quarterback. Donc c'est une équipe ultra complète, et ce sont les top 2 en NFC, ouais.
Ouais, je l'ai dit, on se prépare des playoffs de dingue en NFC avec les Packers, les Saints et les 49ers déjà. Je suis impatient de les voir tout cela se mettre un peu sur la tronche, parce que franchement ça promet. Hein.
Ouais,
dans le même donc Arizona a été limité à 237 yards au total. Moi le truc que je vais reconnaître à cette équipe d'Arizona, autant on parlait en début d'émission des Browns qui perdent des ballons à l'appel et tout ça, encore aucun ballon perdu face à une telle défense pour un rookie, ça aurait pu être pire.
Franchement, moi j'aime bien quand même ce début de saison des Cardinals, de Cliff Kingsbury, leur nouveau coach, de Kyler Murray. Je trouve qu'il y a du sens à ce qu'ils font. c'est assez original en attaque, avec beaucoup de snap où il y a 4 receveurs alignés, 3 receveurs. Ça prend une bonne direction, quoi.
C'est ça. Et puis, encore une fois, on parlait vraiment de discipline de Freddie Kitchens, coach de première année. Là, moi, je suis impressionné par une équipe si jeune qui reste si propre. Qui perd pas de ballon, et je crois que c'est toujours eux qui ont perdu le moins de ballons en NFL. Donc pour une équipe comme ça, qui a quand même des trous et qui est encore jeune et qui a un coach première année, je trouve ça quand même assez impressionnant. Petite info pour ceux qui n'ont pas suivi un peu de news, il y a Kenyan Drake évidemment qui est arrivé dans un échange du côté d'Arizona, parce que David Johnson est blessé, Chase Edmonds s'est blessé dans ce match aussi, donc il y avait besoin de renforts.
Et
Falcons,
que Miami fait des soldes.
Et que Miami fait les soldes, évidemment, sauf pour Aqib Talib, hein, qui arrive à Miami en étant blessé. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais pourquoi pas. Ils ont lâché un choix du 5e tour pour lui juste avant que l'émission démarre. Falcons 20, Seahawks 27. Est-ce que les Seahawks sont si forts que leur bilan de 6-2 l'indique?
C'est pas évident.
J'aime bien quand tu fais cette tête-là, parce que j'ai l'impression d'avoir posé une bonne question.
mais toujours Alain, toujours. C'est pas évident, comme tu le dis. Il y a des qualités indéniables, le duo Wilson-Taylor Lockett, Bobby Wagner en défense, Jadeveon Clowney sur la ligne défensive qui a apporté énormément, Griffin, le cornerback, qui fait une très bonne saison. Et puis, moi, je trouve que le problème, pour les juger vraiment, c'est, à mon sens, c'est vraiment ce... J'aime pas dire le coaching, parce que Pete Carroll a prouvé pas mal de choses dans cette ligue, donc c'est pas forcément remettre Pete Carroll en cause, mais c'est le play calling en attaque. J'ai l'impression que c'est toujours pareil, on fait pas grand chose et on espère que Russell Wilson va nous sauver les fesses sur un, deux, trois big plays, au lieu de construire quelque chose de vraiment agréable à regarder, comme les Ravens ont su le faire pour Lamar Jackson, comme les 49ers savent le faire, enfin... Et j'ai l'impression que, du coup, c'est une équipe qui... je sais pas si elle est en sur-régime, mais qui a une sorte de plafond un peu à cause du coaching, mais voilà.
Et puis moi, il y a aussi le calendrier, parce qu'ils ont battu les Bengals, les Steelers, les Cardinals, les Rams, les Browns et les Falcons. Ils ont perdu contre les Saints et les Ravens. On parlait de test tout à l'heure pour les 49ers. Voilà, il y a quand même... Et là, ils prennent quand même 512 yards sur le nez de la part de Matt Schaub. ce qui est quand même pas évidemment il y a des armes du côté de l'Atlanta, mais les Falcons sont quand même pas l'équipe la mieux placée du moment, quoi. Donc c'est sûr. Ça me semble un peu inquiétant. Heureusement qu'Atlanta ne plaque toujours pas, c'est déjà ça. on va pas revenir en long, en large et en travers sur Atlanta, Raphaël.
Oui, non, mais c'est une saison vraiment galère pour eux à tous les niveaux. Il n'y a plus grand chose à en tirer. Visiblement, ils veulent se débarrasser de pas mal de joueurs avant la trade deadline, mais ils ne trouvent même pas preneur. Bon, voilà, c'est une saison vraiment sans à tous les niveaux, quoi.
Tu veux pas un petit Vic Beasley, donc non, personne n'en veut.
Bah, visiblement.
Colts 15. Non, ouais. Colts 15, Broncos 13, victoire au forceps à la dernière seconde. Alors je veux dire, j'aime bien cette victoire parce que je pense que c'est bien de galérer des fois. Typiquement, c'est le genre de match un peu piège où tu penses qu'ils vont confirmer mais qu'en fait ils peuvent perdre. Là, ils s'en sortent et ils apprennent avec une action Jacoby Brissett, T. Wellington en fin de match incroyable pour démarrer le drive qui va chercher le field goal de la victoire. Mais voilà, est-ce que tu... Alors je sais que c'est toujours un peu psychologie de comptoir, mais je sais pas, moi j'aime bien ce genre de victoire là.
Totalement d'accord, c'est important de savoir gagner mochement en NFL, des matchs de raccro, on va dire, comme ça. C'est une équipe qui confirme déjà sa progression l'an dernier, qui confirme avec ce coaching staff ses progrès dans les différentes facettes du jeu. Je suis content pour Adam Vinatieri qui, après un début de saison compliqué, là sort un gros field goal de la victoire pour rappeler que c'est probablement le meilleur kicker de l'histoire, ou en tout cas un des plus clutch. Donc voilà, c'est pas encore brillant, c'est sûrement encore un peu trop limité pour jouer les premiers rôles en AFC, mais c'est sur la courbe de progression depuis l'an dernier.
Ouais, non, mais c'est ça, ils progressent bien, ils gagnent dans des conditions différentes, ils continuent de gagner, ils sont toujours en tête de leur division, donc l'essentiel est là. Du côté de Denver, on va pas non plus épiloguer, c'est un peu comme Atlanta, bonne défense, pas d'attaque, c'est leur 7e match à moins de 16 points. C'est la troisième fois qu'ils perdent dans les 22 dernières secondes. Et en plus, Joe Flacco est blessé à la nuque. Il était très énervé après le match. Il est blessé à la nuque, donc ils vont jouer. Alors, c'est même pas Drew Lock. J'ai un trou. C'est Brandon Allen, si je dis pas de bêtises.
Tyler Ripien, non
Ah ouais, je m'embrouille sur les. Non, c'est Brandon Allen là. Choix du 6e tour en 2016. Okay. Donc on part sur du très lourd là.
Ouais, soit. Allons-y quoi.
Voilà, parce que Drew Lock est toujours blessé, donc on attend en plus le rookie. Texans 27, Raiders 24, une autre équipe de l'AFC Sud qui s'est bien accrochée dans un match piège avec un gros bémol. JJ Watt perdu pour la saison, déchirure pectorale si je dis pas de bêtises. Le joueur qui mettait le plus de pression sur le quarterback adverse pour Houston, est-ce qu'ils peuvent se remettre de ça?
Ça va être très très dur, bon, surtout que JJ Watt a une importance à la fois sur le terrain mais aussi en termes de leadership, de mentalité. C'est pas juste un très bon joueur, c'est vraiment un capitaine pour le coup et un vrai mobilisateur. Donc va falloir combler cette perte en défense. D'ailleurs, au passage, je commence un peu à m'inquiéter pour la suite de carrière de JJ Watt parce que là, il enchaîne quand même les saisons blanches à demi-finies, tout ça. C'est pas forcément rassurant pour la suite.
C'est la troisième fois en 4 ans qu'il joue 8 matchs au maximum.
Ouais, c'est dommage pour un joueur qui avait commencé aussi vite, aussi fort. Bon, voilà, c'est toute la dureté aussi de ce sport. Et la preuve que quand certains joueurs arrivent à faire 11-12 saisons en NFL, c'est déjà en soi quelque chose d'incroyable. Donc, est-ce qu'ils vont s'en remettre? Je pense que ça va leur faire un vrai coup d'arrêt. Clairement, surtout dans ce qui est dommage, hein, c'est que c'est dans une division où en dehors de la ligne offensive des Colts, ils pouvaient profiter de la ligne offensive faible des Jaguars et des Titans pour vraiment emmerder les adversaires. Ça va être un peu plus dur sans JJ Watt forcément. Après, ils ont la chance d'avoir un jeune quarterback qui est dans la forme de sa vie, qui est resplendissant, qui est clutch. Donc ils vont s'accrocher du coup, un peu à l'image de ce que des Seahawks ont toujours fait avec un très bon Russell Wilson, être capable de s'accrocher dans tous les matchs. Je pense qu'ils vont être capables de ça, mais ça risque d'être un peu plus compliqué pour la fin de saison.
Ouais, Watson, tu l'as dit, est exceptionnel. Il lance le touchdown de la gagne après avoir pris un coup de pied dans l'œil. Enfin, il est incroyable. Mais ce que tu disais pour Watt, je pense que le problème, il est simple et on l'avait déjà évoqué. Hein, c'est que cette équipe de Houston, elle est très forte sur le haut de l'effectif et derrière, c'est compliqué. Donc, si t'enlèves un Watt ou quelque chose comme ça, c'est très vite handicapant au niveau de la relève derrière. On va pas dire que ça revient les hanter, mais ils se sont débarrassés de Jadeveon Clowney au début de la saison parce qu'ils ont pas voulu le payer, là par exemple, il aurait pu rendre des services, mais voilà, ils vont en effet se battre avec Deshaun Watson qui est exceptionnel, mais ça complique évidemment les choses. Les Raiders sont bien coachés, mais leur défense continue de les plomber. L'attaque n'a eu que 3 fois le ballon en deuxième mi-temps,
oui,
touchdown, field goal, punt. Donc ils sont pas en plus improductifs quand ils l'ont, mais faut continuer à renforcer la défense pour redonner le ballon à l'attaque de temps en temps, quoi.
Oui, non, mais c'est ça, c'est quand même les lacunes à. In fine, c'est les lacunes qu'on avait repérées en intersaison et notamment du côté de la défense. Pas de pass rusher numéro 1, pas de cornerback numéro 1, une escouade de linebacker assez faible et ça finit, ils ont beau s'accrocher, ça finit forcément par plomber le bilan et les matchs et pas de grandes surprises.
Et ils prennent 100 yards de pénalité, ce qui n'aide jamais non plus. Titans 27, Buccaneers 23. Alors ce match a été à la hauteur de ce qu'on attendait, genre totalement. Les Buccaneers ont perdu 4 ballons, les Titans ont perdu un seul ballon. Jameis Winston, incroyable machine à turnover, il est à plus de 2 par match en moyenne sur les ballons perdus. C'est impossible de gagner comme ça, il les tue. Alors il y a 2 interceptions qui sont en effet pas forcément de sa faute, parce que les receveurs peuvent se gourer de route, etc. Mais il perd aussi 2 fumbles, hein, comme d'habitude. C'est inadmissible à ce niveau-là, mais c'est pareil, je ne sais même pas, on ne va même pas encore épiloguer sur Jameis Winston qui perd des ballons, donc j'ai l'impression que là, on se répète.
Oui, oui, non, mais on se répète. Il a tout fait dans ce match, des grosses actions comme il peut faire, des pertes de ballons, et c'est comme tu l'as dit, je...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Plus où exactement, mais je sais plus si c'était dans un papier ou en réaction sur les réseaux sociaux. À un moment, son irrégularité t'empêche d'aller plus loin en NFL, et voilà. Enfin,
c'est ça. Il y a plus l'excuse de dire il a du talent, mais il est irrégulier. Être régulier, il faut être régulier au bout d'un C'est comme si je disais, ouais, je rentre des paniers à 3 points à 10 mètres, mais une fois sur 100, quoi. Bah ouais, dans ce cas-là, je suis pas joueur NBA, quoi. Donc voilà, c'est un peu redondant. On va surtout. Alors, il y a une énorme erreur d'arbitrage qui les prive peut-être du touchdown de la gang, oui, puisqu'il y a un fake field goal des Titans qui récupère et ils vont marquer derrière. Mais évidemment, comme d'habitude, c'est sifflé trop tôt. Donc ça, voilà, mais on peut rien y faire, c'est une erreur d'arbitrage. Après, même s'ils avaient gagné avec ça, honnêtement, ils ont un énorme problème de quarterback. Mike Evans arrache 200 yards et derrière, Bruce Arians dit que c'est de la faute des receveurs. Donc voilà, c'est quand même assez gonflé. Concentrons-nous sur les Titans, quand même, qui sont une des équipes qui perd le moins de ballons en NFL, et Ryan Tannehill fait le boulot, 21 sur 33, 193 yards, 3 touchdowns, et moi je l'ai mis dans les leçons de la semaine. Et si les Titans, parce que si Tannehill fait le taf comme ça, comme a pas su le faire Mariota, bon, ils sont prétendants au playoff, là, surtout dans cette division très homogène.
Ouais, comme tu dis, ils sont prétendants en play-off. Déjà, en début de saison, certains les voyaient en play-off, ils l'étaient l'an dernier, parce qu'ils ont une équipe. Eux, pour le coup, par rapport à beaucoup d'équipes dans cette ligue, sont disciplinés, mais vraiment, très peu de ballons perdus, très peu de pénalités. C'est quand même une équipe bien coachée de ce point de vue-là. Il y a des bons joueurs en défense, il y a du talent en attaque. Et Tannehill qui arrive à faire plus que Mariota, et c'est déjà pas mal pour cette équipe. Hein. Donc, ils sont qu'à un match des Colts, si je dis pas de bêtises. Ils doivent encore les jouer. C'est pas impossible, ouais.
On va passer au Rams 24, Bengals 10, c'était à Londres, 7 réceptions, 200 yards pour Cooper Kupp, c'est un record pour un receveur à Londres. Les Rams n'ont pas vraiment transpiré, j'ai du mal à tirer grand chose de ce match, je suis toujours pas plus rassuré que ça par les Rams. Jared Goff frôle la correctionnelle de temps en temps en plus aussi, il s'est gavé en première mi-temps, mais
c'est pas incroyable. Effectivement, c'est pas particulièrement rassurant parce qu'il joue une équipe très faible en face. Ce qui marche depuis le début de saison continue à peu près à marcher depuis chez les Rams. Et ce qui marche pas, c'est-à-dire la ligne offensive continue à ne pas particulièrement marcher, le jeu au sol moyen. Bon, faudra attendre encore un peu.
Grosse nouvelle pour les Bengals, c'est tombé juste avant l'émission en l'occurrence, Andy Dalton sur le banc. Alors encore une fois, on l'a dit, on parle avec ce truc qu'on est juste avant la deadline. Mais est-ce que ça ressemble pas à un truc de dire, bon allez, on le met sur le banc, il est disponible si quelqu'un veut nous filer un truc en échange?
Oui, je pense qu'effectivement ça ressemble un petit peu à ça, parce que l'ère Dalton est finie du côté de Cincinnati, en tout cas manifestement. C'est un appel du pied à des équipes comme Chicago, à des équipes... D'ailleurs,
il n'y en a pas beaucoup d'autres.
Ouais.
Il n'y en a pas beaucoup d'autres, j'ai fait le tour aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Après, comme je te disais sur le chat de la rédaction, moi je suis quand même un peu surpris par le côté on n'en veut plus. Qu'est-ce que les équipes vont donner en échange d'un genre dont les Bengals veulent plus? Bon, je sais pas.
Mais... Oui, c'est assez bizarre. Ouais. Ils ont un rookie à tester, mais oui, c'est. Dalton est quand même pas le principal fautif du naufrage cette année. Hein.
Clairement pas.
Autant on lui tombait dessus quand ils étaient en play-off et qu'ils se rataient alors qu'il y avait du monde autour, mais là il n'y a quand même plus grand-chose autour. Bears 16, Chargers 17, est-ce qu'il y a un truc qui ne fait pas peur à Matt Nagy? Parce qu'il a peur de courir pour avoir une meilleure position de field goal, il a peur de faire lancer Mitchell Trubisky sur 3ème et goal à 9 yards de la end zone, il a beaucoup peur, Matt Nagy. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui ne fait pas peur à Matt Nagy?
Ah bah, visiblement le niveau de Trubisky, je sais pas. De toute façon, tu gagneras pas en NFL avec un coach qui a peur, ça déjà, qui a peur de courir sur une troisième tentative pour gagner du terrain pour aller marquer un field goal, ça déjà. Enfin, je sais pas. Je suis très perplexe.
Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé avec Eddie Pinheiro, je l'ai vu juste avant, là, il y a quelques minutes. Il a dû retenir la leçon parce que Cody Parquet s'était fait virer à coup de pied aux fesses parce qu'il avait eu l'outrecuidance de se plaindre un petit peu ou de dire que je sais plus quoi dans la presse. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui a demandé à Pinheiro, parce que tu sais, comme ils ont pas couru, il était sur la H-mark de gauche au moment de frapper. Et donc, quelqu'un lui a dit, la H-mark de gauche, vous auriez pas préféré qu'il vous ressente le ballon? Et il a dit, bah ouais, évidemment, j'aurais préféré qu'il me ressente le ballon. Non, j'ai rien dit, non, gauche c'était très bien, gauche c'était très bien.
Non mais bon, quand tu vois que c'est Khalil Mack qui dans la presse dit qu'il assume la défense assume sa responsabilité.
C'est incroyable. Et on rappelle que les Chargers sont marqués 17 points et c'est voilà. Khalil Mack qui dit c'est de notre faute quoi. Trubisky les tue avec un fumble dans le quatrième quart-temps, il y a touchdown derrière des Chargers et puis derrière il y a le coup de pied raté, mais Ils ont 162 yards au sol et Trubisky finit pas le boulot. Ils sont à 1 sur 5 dans la red zone. Tu peux pas gagner comme ça. Ils ont un problème à ce niveau-là.
Ah oui, c'est sûr.
Les Chargers sont pas beaucoup plus beaux parce qu'ils gagnent ce match, mais alors ils ont quand même bien été aidés. 36 yards au sol, seulement 231 yards pour les Chargers. Parce qu'encore une fois, Khalil Mack dit que c'est de sa faute. Seulement 231 yards pour les Chargers contre 388 pour Chicago. Donc bon voilà, eux ils gagnent moche. C'est une saison quand même qui est très laide hein, pour les Chargers alors qu'il y avait du potentiel.
Ouais, oui, il y avait du potentiel, très laide, un mélange de blessures, de mauvaises décisions de coaching, un mélange de plein de choses, hein, clairement de joueurs qui sous-performent ou qui en tout cas ne surperforment pas comme l'an dernier. Et voilà, c'est un peu de tout ça. Ils ont viré ce cher Ken Wisenhunt qui m'était très cher.
C'est vrai. Bon. Il va bien rebondir comme coach des Falcons ou un truc comme ça. Ça fait partie des mecs qui sont increvables. Tu sais, c'est la taupe dans les fêtes foraines. Tu tapes la tête quelque part, il va réapparaître à un autre endroit en NFL. Ça n'arrête jamais avec ces coachs-là. C'est une saison décevante. Les Lions 31, Giants 26. Les Giants sont l'équipe qui perd le plus de ballons en NFL. Ça leur coûte un touchdown sur un fumble perdu dans ce match. C'est dommage parce que Daniel Jones y progresse. 28 sur 41, 322 yards, 4 touchdowns. Il n'est pas intercepté.
Après 2-3 semaines très difficiles, effectivement, il sort une belle prestation. Faut dire qu'il était un peu mieux entouré avec un Barkley qui revenait bien en forme, Golden Tate, tout ça. Et Slayton, le receveur qu'ils ont drafté cette année. Bon, c'est une équipe qui progresse en attaque. Par contre, il n'y a absolument aucun progrès en défense depuis le début de la saison. Et ça, à mon avis, c'est le gros souci parce qu'ils continuent à prendre des tonnes et des tonnes de yards, donc ils vont pas aller très loin comme ça. Bon.
Matt Stafford en face était bon. Kenny Golladay, 6 réceptions, 123 yards, 2 touchdowns. C'était un match sympa, hein. C'était jeu de yo-yo avec les Lions qui tiennent au bout. Après, je reste convaincu que les Lions, ça reste quand même un peu plus limité qu'on l'a cru en début d'année.
Ouais.
Jaguars 29, Jets 15. Est-ce que le développement de Sam Darnold est en danger? 8 sacks dans ce match, 3 interceptions, ça fait 7 interceptions sur les deux derniers matchs. Il a des bons moments, mais la plupart du temps il doit essayer de survivre. Il finit à 213 yards dans l'attaque, c'est anémique. Les soldes sont ouvertes, on parle, alors je ne sais pas s'il y aura un preneur, mais au moment où on se parle, Le'Veon Bell serait disponible pour un échange. Donc on est clairement dans la fin. Non mais alors pour de vrai, est-ce que tout ça peut menacer son développement? Est-ce que ça donne de l'huile, de l'eau au moulin des gens qui disent faut mettre les rookies que quand il y a un peu de trucs autour?
Je ne sais pas si ça menace sur le long terme son développement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de perdre une année. Clairement, avec pas de ligne offensive, en plus à sa mononucléose qui rajoute rien à la simplicité. Un coach, bon, voilà, j'ai déjà assez dit, je continuerai pas là-dessus. Et en plus, ils veulent potentiellement lui faire perdre le joueur le plus talentueux autour de lui, Le'Veon Bell. Je suis très sceptique, très très sceptique par tout ça. C'est comme tu l'as dit, c'est anémique en attaque. Je voyais la stat tout à l'heure. En moyenne, ils puntent 4 fois pour un score marqué. Quand par exemple des Ravens donc je sais vous n'êtes pas tous fans de Lamar Jackson, mais les Ravens sont à 0,8 punt pour un score marqué. Tu vois, enfin. C'est absolument catastrophique comme chiffre. Je sais pas où va cette équipe. Tout à l'heure je sais pas si c'est vrai, mais sur Twitter je voyais aussi des rumeurs comme quoi Jamal Adams pourrait échanger. Enfin, je veux dire là c'est.
Alors, j'allais te le dire. Moi, j'ai sous les yeux au moment où je te parle, selon le New York Daily News, les Jets sont en discussion avec les Cowboys. Parce que Adams voudrait aller dans sa ville natale de Dallas.
Ouais, écoute, alors, ça serait un coup incroyable pour les Cowboys.
Ah oui, alors là, eux, ouf.
Alors là, franchement, se renforcer comme ça dans le backfield défensif avec Jamal Adams, pour eux, ça serait incroyable. Mais pour les Jets, s'ils lâchent leur meilleur joueur défensif, jeune, capitaine, leader, Voilà.
Je suis en train de regarder parce que sur le chat de la rédaction, il y a Jean-Michel qui vient de mettre « Oh, oh, oh ». Donc je sais pas s'il attend. Ah non, Non, il parlait de tanking, autant pour moi. J'en reparlerai juste après de cette nouvelle tanking. Non, mais oui, les Jets, en effet, on sait pas où ça va et c'est assez inquiétant. Encore une fois, vous le saurez en écoutant probablement, ce sera fait la trade deadline si Jamal Adams est parti ou pas. Du côté des Jaguars, Gardner Minshew est encore bon, 279 yards, 3 touchdowns. Il est à 13 touchdowns pour seulement 2 interceptions depuis qu'il a pris l'attaque. Lui, pour le coup, il y a peut-être débat avec Nick Foles, non?
Ah, lui, pour le coup, effectivement, il y a quand même débat avec Nick Foles parce que tu te retrouves avec un jeune quarterback en contrat rookie en plus, vu que c'est un sixième tour, ça doit vraiment pas coûter grand chose. Il est plutôt bon, il est assez spectaculaire, il se crée quelque chose autour de lui. Dans un marché comme Jacksonville, je pense que c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. Y a un vrai débat avec Foles, hein, clairement, c'est pas si évident que ça, ce que doivent faire les Jaguars, donc bon courage pour décider.
Ouais, non, franchement, ça va être chaud. Plus il lui laisse du temps, plus il confirme. Donc
C'est quand même, il est actuellement le meilleur quarterback rookie, je veux dire. Donc
ouais, non, il a des stats hyper propres et il fait de, enfin, il arrive à faire quelque chose avec des DJ Shark, des joueurs comme ça. Il a fait de DJ Shark une cible légitime quand même ces derniers temps. Donc bon, ça fait partie du truc, mais ce sera à surveiller. Et comme tu dis, l'aspect financier, alors je sais pas comment il pourrait se débarrasser de Foles, mais après il y a peut-être une équipe désespérée qui prendrait.
Chicago.
Mais en tout cas, ouais, sur le côté petit contrat pour construire autour, là, il serait pas mal. Après, le désavantage, je crois, des contrats genre sixième tour ou trucs comme ça, c'est qu'ils sont plus courts, donc il faudrait
c'est 3 ans
prolonger. C'est ça, il faudrait le prolonger dans moins longtemps. Donc ce serait peut-être ça. Steelers 27, Dolphins 14. C'était ça la petite nouvelle tanking supplémentaire, c'est que les Dolphins ont placé Xavier Howard sur la liste des blessés. Et alors, ce qui est plutôt drôle, c'est que NFL Network rapporte que ce n'est pas une déchirure du ligament croisé antérieur, ce n'est pas une déchirure du ligament médial collatéral, mais ils veulent prendre leurs précautions parce qu'il fait partie de leur futur. Donc en fait, ils en sont à un tel point dans le tanking qu'en gros, c'est ah, le mec il s'est foulé un ongle, il s'est cassé un ongle, on va le mettre sur la liste des blessés pour l'année prochaine.
Du coup, c'est pour ça qu'ils font venir Aqib Talib.
Voilà, c'est vraiment, enfin bon, c'est bizarre. Les Dolphins menaient 14-0, le pass rush et James Conner se sont réveillés. Il y a toujours les bonnes bases dans cette équipe de Pittsburgh quand même. 3 sacks pour TJ Watt, 4 turnovers forcés, et puis le jeu au sol avec un Conner à plus de 100 yards pour la première fois de la saison. Donc ils ont toujours quand même les bonnes bases sur lesquelles ils devaient construire avec Ben Roethlisberger.
Oui, non, c'est ça. Ils ont surtout tenté plus de, ils ont fait tenter plus de choses à Mason Rudolph, ce qui est pas mal. Ils se sont pas contentés que de donner le ballon à Connor. Bon, après, la première mi-temps était vraiment moche quand même du côté des Steelers, ce qui montre qu'il y a malgré tout quelques lacunes, soucis. Bon, voilà.
Non mais c'était pas un grand match, clairement.
Non.
C'était pas un grand match. Les Dolphins remettent Pittsburgh dans le match avec un blitz sur 3ème et 20, mais qui est incroyable. Je sais pas, il y a une volonté visiblement. Ils vont finir par me faire croire que le tanking existe. Ça fait combien, 8 ans, 9 ans qu'on fait l'émission et que je soutiens que ça n'existe pas au niveau des coachs et des joueurs parce qu'ils jouent pour leur job. Mais là, ce blitz qu'ils envoient sur 3ème et 20, alors sûrement pas
dans des intentions, mais
il y a sans safety, sans rien, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Du coup, ils prennent un touchdown, les autres sont lancés. Enfin bon. Donc voilà, les Dolphins incapables d'aller au bout avec la full Ryan Fitzpatrick expérience. Hein, 2 touchdowns en début de match, les interceptions et les fumbles derrière. Enfin bon, la totale. Vikings 19, Redskins 9. Dalvin Cook a marché sur les Redskins, c'était le jeudi. 98 yards au sol, 73 à la réception. On le met maintenant, Dalvin Cook, dans le groupe des meilleurs coureurs de la ligue. Je vais pas faire un top 5 ou quoi, mais.
En tout cas, depuis le début de la saison, il le prouve largement. Il est même le meilleur coureur depuis le début de la saison. En tout cas, sur les performances, pas forcément en termes de talent, mais sur les performances, il l'est. Ça fait vraiment beaucoup de bien à cette attaque des Vikings. Donc non, il est en train de s'établir, définitivement, comme un des top coureurs.
Et avec un Cousins propre et une grosse défense contre des Redskins où il n'y a rien. Il n'y a plus rien à voir à Washington pour la fin de l'année, là.
Non, il n'y a plus rien à voir. Il pourrait en plus d'ici la fin de la trade deadline perdre un ou deux joueurs, Trent Williams notamment. Il y a des rumeurs sur Ryan Kerrigan. Enfin bon, clairement, il n'y aura plus rien à voir.
Josh Norman aussi. Donc, Donc là, c'est, oui, c'est les soldes aussi, hein, qui sont ouvertes. Voilà pour les matchs de la semaine. On va voir ce que vous en avez pensé sur le répondeur. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo, 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 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it alone. Et ouais, TD Actu, ici c'est Thomas Howard Luffy et je suis en direct de San Francisco. Du coup, San Francisco Niners against Carolina Panthers. Allez, go Niners!
Il a raté! Michel pour TD Actu, bravo Eddie, bravo Eddie Pinero, au revoir Michel Chubrisky, on coupe les deux, merci!
Hello, hello, c'est Bachi de Madagascar avec...
André, supporter des Cowboys.
Et avec
Léonard, qui n'est maintenant plus supporter des Seahawks, mais maintenant des Vikings.
Tout un roman, bravo. On vous rend visite ce soir pour fêter la victoire du Suns, qui a mis un petit peu de temps à se dessiner, je vais déjà dire au moins une mi-temps. Bravo à eux quand même, beau retour de Drew Brees, mais je crois que le commentaire qui s'impose, c'est qu'en NFC, il va falloir évidemment compter sur les Saints, mais qu'il va falloir redouter fortement les 49ers et ce satané Aaron Rodgers. Bon, ben, on attend tous avec impatience la rencontre avec les 49ers. En attendant, je vous l'ai dit, ben, je vais partir le 2 novembre et je rentre le 14 pour aller voir le 10, le match contre Atlanta, où je vous ramènerai quelques petits souvenirs. Voilà, à bientôt.
Salut toute l'équipe, salut tout le monde, c'est Kevin de la Valette. Message à tous les kickers, free agent, ouverture du marché de Chicago. Je répète, ouverture du marché de Chicago pour tous les kickers free agent.
Ça y est, il est de retour. Drew Brees, enfin, sur les terrains. Ça fait vraiment plaisir. Après, je me dis que c'est vraiment dommage qu'il a été blessé cette saison, parce que au vu des différents protagonistes pour le titre de MVP, je me dis qu'il aurait eu toutes ses chances s'il aurait joué ces 5 matchs qu'il a manqué. Hein. Quand on regarde, que ce soit Wilson, Mahomes, en plus là qu'il est blessé, McCaffrey, Watson, Rodgers, on se dit vraiment, voilà, ils sont bons, est-ce qu'il y en a vraiment un qui ressort pour le titre de MVP? La défense des Niners, est-ce qu'il y a vraiment voilà, quelqu'un qui ressort? Garoppolo, pareil, qui n'est pas au niveau MVP. Le seul que bah, moi je verrais vraiment, en fait, c'est Jacoby Brissett, parce que qui aurait donné cher d'Indianapolis après la retraite de Luck? Franchement, je pense que c'est lui qui a le plus de mérite. Aujourd'hui, ils sont à 5-2. Je pense vraiment que c'est lui qui tire l'équipe vers le haut et qu'on ne donnait pas cher de sa peau, mais qu'au final, il arrive à faire une excellente saison et qu'il mérite bien son titre de MVP.
Depuis San Francisco, toujours Tommaso. Super expérience ici. Un super match, un événement incroyable. 51-13 pour les Niners avec des courses, des interceptions. Sherman et Bossa, c'était ouf. C'était vraiment dingue comme expérience et voilà, je voulais le partager avec vous. Et bien, à bientôt, à tous.
Merci à tous pour vos messages et on passe à nos tops et nos flops. Raphaël, les tops et les flops de la semaine, c'est à toi. Je te laisse commencer avec ton premier top.
En top, Bill Belichick, 300e victoire, 3e coach à atteindre cette barre. Je sais pas s'il aura le courage d'aller jusqu'au 347, il me semble qu'ils sont le record, mais bon. En tout cas,
Il a dit cette semaine que, parce qu'il a 67 ans, apparemment il avait dit dans un documentaire il y a 10 ans qu'il se voyait pas coacher à 70 piges, et il a dit que finalement. À l'époque, il savait pas ce que c'est. J'ai bien aimé. Il a dit à l'époque, je ne devais pas savoir ce que c'était que d'avoir 70 ans. Et maintenant, finalement, je suis plus sûr. Quoi. Donc, finalement, il se sent bien. Donc, ouais, 47 de plus. Bah, son rythme, c'est 4 ans.
Ouais.
Ça compte les playoffs ou pas?
Je suis pas sûr, justement.
Je sais jamais, ouais, parce qu'ils aiment bien les stats qui comptent que la saison régulière. Bon, ça fait 5 ans, allez, on va dire 6 ans en tapant large. Ouais, c'est pas infaisable, hein, ça le met à 73 ans.
C'est pas infaisable, maintenant c'est juste une question de volonté, surtout, quoi. Enfin...
Mon top à moi, alors ce sera les Jaguars. Alors il y a Deshaun Watson, mais je crois que je le fais toutes les semaines parce qu'il est exceptionnel. Et mon top, c'est les Jaguars avec leur chambrage sur Sam Darnold. parce que je suis particulièrement fan de ce genre de truc. Parce qu'honnêtement, déjà, c'est pas méchant, ça mange pas de pain. Alors, donc, la mascotte est rentrée avec un costume de fantôme, enfin, un drap de fantôme sur la tête, parce que Sam Darnold avait dit contre les Patriots, il était équipé d'un micro, en fait, il le disait à un coéquipier, pas en public, qu'il avait vu, qu'il avait l'impression de voir des fantômes à cause du pass rush. Donc, la mascotte des Jaguars arrive avec un drap sur la tête. Il joue le thème de Ghostbusters pendant le match. Ça c'est très très bon. Et apparemment, en fait, les joueurs de Jacksonville avaient prévu en face de lui de faire des bruits, tu sais, genre ouh, tu sais, pour lui faire peur comme des fantômes. Mais ce genre de chambrage, je trouve ça excellent.
Heureusement qu'ils l'ont.
Oui.
Heureusement qu'ils l'ont assumé au niveau du résultat, par contre.
Ça c'est clair. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, pour moi, ça mange pas de pain, parce que ça se trouve, si tu tombes sur un mec vénère en face, ça le fait mieux jouer, si t'as un quarterback un peu énervé. Donc je trouve que c'est bien, c'est bon esprit, ça va à tout le monde. Ton flop.
C'est pour ce pauvre Andy Dalton qui est un peu le bouc émissaire facile du. Et en plus, le jour de son anniversaire, le mettre sur banc le jour de son anniversaire.
Génial.
Franchement, Cincinnati ne doit pas grand-chose non plus à Andy Dalton, hein. C'est pas forcément un joueur légendaire de la franchise, mais c'est dur le jour de son anniversaire, quoi.
Non, ouais. Mais il y a des franchises comme ça où t'as l'impression que c'est toujours sur ce genre de franchise-là, tu sais que ça tombe en plus, quoi. Ça va toujours être les Browns ou les Bengals ou un truc comme ça qui vont non seulement faire une crasse à un joueur, mais en plus, tu sais, genre le jour où sa mère est morte, ou le jour où de son anniversaire, ou toujours un truc comme ça horrible, quoi. Mais comme on voit, c'est un autre débat, hein, mais comme on voit que c'est les Bengals qui se sont engueulés avec Cordy Glenn qui veut pas jouer parce qu'il pense être pas bien de ses commotions, comme c'est les Jets qui viennent de couper un joueur parce que le mec voulait se faire opérer et qu'eux ils étaient persuadés qu'il devait jouer. Enfin voilà, on voit les franchises bien gérées ou pas. En parlant de ça, mon flop. J'en ai déjà un peu parlé. Alors, je pense que c'est plus un deuxième top qu'un flop. C'est Bruce Arians. Parce que c'est un top pour moi, parce que c'est de l'amour. J'aime l'amour. Et cet amour qu'il a pour Jameis Winston, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'après le match, il est quand même allé balancer. Jameis Winston n'a pas lancé une seule interception qui soit de sa faute. Alors, sur ce match-là, peut-être. Mais quand ton quarterback vient de perdre 10 ballons en 2 matchs, j'ai bien dit 10 ballons en 2 matchs, hein, je veux dire. C'est quand même ultra dur de dire les receveurs l'ont laissé tomber. J'aurais préféré qu'ils disent Mike Evans, c'est un mec exceptionnel qui est allé chercher 198 yards dans les airs et qui mérite beaucoup mieux. Il n'y a pas Mike Evans, Jameis Winston, il a 5 interceptions par match. Parce que quand il lance des saucisses en l'air en espérant qu'Evans aille les récupérer.
Quand tu vois la saison de Marquise Goodwin en plus, qui fait une excellente saison, enfin. Y a pas mal de quarterbacks qui ont bien moins que Evans et Goodwin en receveur et qui font pas autant de bêtises. Donc non, c'est une déclat assez, assez étrange.
Je comprends pas les dossiers que Winston a sur Arians. Alors je sais qu'Arians c'est un peu exubérant, il a toujours été un peu... Mais là, cette manière qu'il a de se convaincre absolument que Winston est... Alors je sais pas, c'est peut-être pour lui, il veut pas s'avouer vaincu parce qu'il est censé être un génie qui doit coacher les quarterbacks.
Il a quand même une réputation d'aimer un peu les cas sociaux. Il avait remis dans le droit chemin Tyrann Mathieu, qui avait quelques problèmes de comportement en université. Il l'a remis dans le droit chemin. Il a cette réputation-là d'aimer les cas sociaux. Donc, il se dit peut-être que Jameis Winston pourrait être sa plus belle œuvre. Il y a beaucoup de boulot.
Attends, je viens d'avoir une idée, mais Bruce Arians, c'est bien le mec qui a coaché Antonio Brown pendant des années à Pittsburgh, non?
Des années, je sais pas, mais...
Quelques années.
Je sais pas, parce qu'il part chez les Colts, derrière...
Là, il a bien été son coordinateur offensif. Hein,
il l'a été, mais je sais pas s'il l'a été longtemps, par contre. J'avoue que... Bon.
Est-ce que ce serait pas une bonne idée de dire, écoutez, les receveurs sont décevants, on va échanger Mike Evans et mettre Antonio Brown à Jameis Winston, parce que là, au moins, on aura quelque chose de stable. Psychologiquement et footballistiquement, on est bien.
Ouais, non, ça serait fun.
Si les Buccaneers sont l'équipe qui signe Antonio Brown et qui le colle avec Jameis Winston, je suis refait, mais alors là, le site, on carbure. Hein, je fais doubler la taille du serveur parce qu'en niveau news, a priori, on va être pas mal sur les sorties nocturnes en Floride d'Antonio Brown et Jameis Winston, ça va être l'horreur. Voilà pour les tops et les flops, on passe aux questions. « On termine avec vos questions comme toutes les semaines. Raphaël, j'ai fait la petite sélection et je commence avec une question de Godgers Is Among Us. Alors, je vais pas vraiment laisser t'y répondre. Tout simplement parce qu'il demande, c'est l'heure des trophées de mi-saison, en particulier celui de head coach. Les nominés sont Kyle Shanahan, Sean Platoon. Alors, attends, il a mis Kyle Shanahan, Sean Platoon, Matt LaFleur and High Records. Palpatine n'est pas mentionné car tout le monde sait que... tout le monde le sait, Bilal Cheat is not my lover. Bon, Bilal Cheat. Ok. Donc oui, alors je peux te laisser répondre sur le coach de l'année et j'allais proposer peut-être que la semaine prochaine on fasse une spéciale trophée de mi-saison.
Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais.
Pour éviter les redites. Alors on peut faire un teasing avec le coach de l'année. Tu prendrais qui? C'est dur. Hein.
Moi, j'irais vers Bill Belichick quand même. En fait, je trouve, c'est un peu comme, je suis pas un expert, mais c'est un peu comme Greg Popovich en NBA. Ouais, j'ai l'impression que le mec qui a tellement fait l'excellence tout le temps qu'on oublie que en fait c'est lui le meilleur coach tout simplement quoi. Et à un moment, il mérite d'avoir un peu plus de titres que ça.
On rappelle qu'il a pas de coordinateur offensif, hein, défensif officiellement. Mais oui, il y a plein de bons candidats cette année en tout cas. Il y a vraiment
oui, Kyle Shanahan.
Kyle Shanahan, c'est dur de pas lui donner. Sean Payton qui fait du taf avec 5 victoires sans Drew Brees, c'est énorme aussi. Matt LaFleur pour sa première année, c'est énorme aussi. Il y a des tonnes de bons candidats. Mais on en parlera la semaine prochaine de tout le reste. Question de Loudnis, êtes-vous pour ou contre un système de loterie pour l'ordre des choix de draft des équipes qui n'ont pas participé au dernier playoff? Comment NBA a une probabilité plus forte d'avoir des choix hauts pour les équipes les moins bien classées?
Non, je trouve le système à l'heure actuelle assez efficace. Non.
Ouais, et puis là pour le coup le tank, enfin on en est encore à se poser la question pour le tanking alors qu'en en NBA c'est quand même assez clair, donc non, bon, ça me va très bien aussi. Question de Papa Lions. Alors attention, accroche-toi. Parmi les quarterbacks suivants, lesquels seront encore titulaires dans leur équipe actuelle lors du premier match de la saison prochaine? Tannehill aux Titans.
Je pense.
Ah ouais. Il avait signé 2 ans, non?
Ouais, je crois.
Je sais plus, ouais. Fitzpatrick, bon, a priori, ils vont drafter eux quand même. Darnold, ça reste?
Oui.
Ah bah, il avait demandé Dalton. Bah, Dalton, on a la réponse. Il vient d'être mis sur le banc. Big Ben?
Oui.
Il a l'air de vouloir de continuer. Nick Foles? Et ça se pose celui-là, on avait dit.
Pas évident.
Locke? Bah, alors, Locke, ça doit être pour les Broncos, du coup, je suppose. A priori, c'est lui qui est appelé à débuter l'an prochain. Derek Carr.
Oui.
Philip Rivers.
Oui.
Oui, mais avec un jeune drafté derrière, ce serait pas mal. Dwayne Haskins. Il va falloir.
Oui, j'espère. Ouais.
Trubisky.
Ah, j'espère que non.
Ouais, pareil. Newton.
Oui.
Breeze, oui aussi.
Oui.
Et Winston.
J'espère que non.
Pareil. Pensez-vous qu'Andy Reid, alors question de Tars Velder, pensez-vous qu'Andy Reid serait capable de rendre bons les quarterbacks suivants ou bien sont-ils des causes désespérées? Alors, Andy Reid avec Jameis Winston, Marcus Mariota, Blake Bortles, Mitchell Trubisky, Josh Rosen, Josh Allen, Bridgewater, qu'est-ce qu'il nomme? Eli Manning, Lamar Jackson. Qui y sauve?
Je pense qu'il pourrait sauver Josh Allen et Teddy Bridgewater.
Ouais, qu'est-ce qu'il nomme aussi?
Oui, genre, qu'est-ce qu'il nomme, ouais.
Pensez-vous qu'Adam Gase serait capable de rendre mauvais les quarterbacks suivants ou bien sont-ils assez bons pour lui survivre? Dak Prescott, Deshaun Watson, Carson Wentz, Kirk Cousins, Mayfield, Murray, Brissett, Garoppolo, Rivers, Goff.
Eh ben, sincèrement, dans cette liste, je pense qu'il en tue pas mal, hein.
Ah ouais, moi je pense qu'il tue. Enfin, je pense qu'il fait mal à Prescott, il fait mal à Cousins, il fait mal à Mayfield, il fait mal à Brissett.
Oui.
Probablement à Garoppolo.
Sans doute.
Et très sûrement à Goff.
Ouais, non, je pense aussi.
si Brady décidait de quitter les Patriots, qui devrait tenter un one-shot pour l'acquérir? Chicago à coup sûr, mais qui d'autre? Les Niners, parce que c'est l'équipe de chez lui.
Ouais, mais avec ce qu'ils ont mis sur Garoppolo, c'est compliqué.
Ouais. Non, mais après, il y a pas mal de discussions sans vraiment de fondement en ce moment sur ce qu'il va faire et tout. La question, quand même, c'est pourquoi il quitterait les Patriots? Parce que je vois pas où est-ce qu'il pourrait trouver une meilleure situation pour gagner le titre ailleurs. Hein.
Non, clairement.
Donc vu qu'a priori il ne veut que gagner, à part s'il dit je fais un baroud d'honneur, je sais pas, je prends un cas hyper improbable, mais les 49ers se séparent de Garoppolo pour X ou Y raison et il dit je veux faire un baroud d'honneur dans ma ville parce que je suis californien, etc. Mais franchement, je vois vraiment pas dans quelle situation il irait voir ailleurs, quoi.
Non, non, clairement.
Si vous décidiez du sort de la compétition, quelle est la franchise que vous voudriez voir gagner le Super Bowl cette année et pour quelle raison? Question de Dirty Fighter. Alors, je vais te donner un élément quand même. On rappelle que c'est les 100 ans de la NFL.
Mmh.
Donc, pourquoi pas une franchise genre historique, genre les Packers? Moi, je dis ça.
Moi, je serais plus allé vers les Chiefs.
Mais alors, je sais plus avec qui. Je crois.
J'aimerais bien voir Andy Reid gagner un titre quand même.
Eh ben, Raoul me rappelait jeudi dernier, quand on faisait la preview, le Packers Chiefs là de cette semaine, c'était le remake du premier Super Bowl.
Mmh, tout à fait.
Donc ça pourrait être sympa d'avoir un Packers Chiefs au Super Bowl.
Ça sera un beau storytelling de la NFL.
T'imagines, on va encore dire s'il y a un coup de sifflet de travers pendant les finales de conférence, on va en entendre parler pendant 1000 ans. Mais ouais, non, mais en plus le côté Patrick Mahomes contre Aaron Rodgers, pas
mal. Vendeur.
Pas mal, t'as deux MVP. Hein. Question de Henri Play. QV quarterback 2018, Mayfield se fait plus remarquer par ses déclats et ses publicités que par son niveau de jeu. Darnold semble avoir vécu son butt fumble et sur un rythme winstonien pour les pertes de balles. Allen est plus un coureur qu'un lanceur. La carrière de Rosen semble être déjà terminée. Et Jackson est énorme au sol, progresse dans les airs et ne perd pas beaucoup de ballons. Mais est-il le meilleur quarterback de cette QV? Pour l'instant...
Oui. Est-ce qu'il est le meilleur quarterback? Je sais pas. Après, il est le plus performant, il est le mieux utilisé sans aucun doute. Et j'ai envie de dire, c'est presque ce qui compte en fait. Enfin, c'est...
Ouais. Très, très bien résumé. Après, je pense qu'il faut encore laisser 3-4 ans à cette QV pour qu'on sache. Elway 75. Alors attends, je vais reformuler. Sur la QV 2018, quand même, pour donner une réponse, lequel tu prendrais aujourd'hui dans ton équipe? Mayfield, Darnold, Allen, Rosen, Jackson?
Alors, c'est vraiment personnel, hein, mais moi j'irai vers Lamar Jackson.
Moi je resterai sur Mayfield, mais bien coaché. Question d'Eloué 75. Selon vous, quelle équipe aurait une petite chance face aux Patriots en finale de conférence? Les Ravens de Lamar Jackson, les Chiefs de Pat the Muppet Mahomes, les Colts de Jacoby No Luck Brissett, ou la réponse D, dite de la surprise, Texans, Browns, Bills, Jags, etc.
Écoute, j'en avais parlé avec un de nos rédacteurs, Victor Rouillet, sur le chat de Touchdown Actu il y a déjà quasiment 2-3 semaines, et je lui avais dit, et je garde la même idée, pour moi il n'y a que deux équipes en AFC qui peuvent battre les Patriots, les Chiefs de Patrick Mahomes dans un grand soir offensif, parce que le jeune quarterback est en folie, et j'avais dit les Ravens, ça peut peut-être surprendre certains, mais les Ravens par leur capacité à écraser au sol l'adversaire, et avec une équipe des Ravens qui arriverait sur ce match-là, en moyenne, ils ont le ballon 36 minutes par match. S'ils arrivaient à reproduire ça face aux Patriots, garder la balle 36 minutes par match, avec un Tom Brady un peu moins bien cette saison, pourquoi pas?
Ouais, non, mais ça se tient. Question de Marcounet 1391, petit jeu des simulations qui gagnerait ces matchs fictifs. Alors ça, je trouvais ça marrant, j'essaie d'aller vite parce qu'il y en a pas mal. Le duel de la baie, 49ers de 2012 avec Jim Harbaugh, Colin Kaepernick, Frank Gore, Patrick Willis, Aldon Smith, contre 49ers 2019, Kel Shanahan, Garoppolo, Kittle, Bosa, Sherman. Je sais que ceux de 2012 étaient quand même sacrément fun avec Harbaugh.
Ouais, j'irai quand même vers 2012 parce que la doublette de linebacker Patrick Willis...
Bowman,
c'était quand même du haut niveau, donc j'irai vers 2012.
Ouais, c'est beau match. Le duel des zéros pointés, attention, les rosters peuvent choquer. Les Browns de 2017 à 0-16 de Hugh Jackson, Cody Kessler, Isaiah Crowell, Miles Garrett, et les Dolphins de 2019 à 0-7 de Brian Flores, Josh Rosen, Devante Parker, Xavier Howard. Je pense que les Browns gagnent, ils étaient plus accrocheurs quand même.
Ouais, peut-être les Browns, ouais.
Le duel des finalistes malheureux, Rams 2018, Sean McVay, Goff, Gurley, Aaron Donald contre les Falcons 2016 de Dan Quinn, Ryan, Devonta Freeman, Julio Jones.
Les Falcons, je pense que malgré le scénario, certains ont oublié à quel point ils étaient quand même forts cette année-là. Ils sont à 15 minutes de la fin du match, ils mènent quand même 28-3 les Patriots. Enfin, les Rams n'ont rien fait face à ces Patriots-là.
Ils faisaient un match parfait jusqu'à la fin, c'était incroyable. Ils avaient un Vic Beasley qui était performant pendant la saison. Ils avaient du matos incroyable attaque. Ouais, je veux dire, Falcons aussi. Le duel des pourfendeurs de Patriots. Celui-là, tu vas bien aimer. Les Giants 2007 de Tom Coughlin, Manning, Tuck, Strahan. Les Eagles de 2017, Doug Peterson, Vance Foles, Malcolm Jenkins, Fletcher Cox.
Beau match, pas mal serré, je pense. J'irai vers les Giants 2007.
Pour le pass rush.
Pour le pass rush, ouais.
Ouais, moi j'irai là-dessus aussi. Et enfin, le Jeff Fisher Bowl, un coach qui nous manque dans le podcast pour atténuer le courroux des chroniqueurs envers Bill O'Brien, nous dit Marc Kounet. Les Rams de 2013 de Jeff Fisher à 7-9, menés par le brillant Sam Bradford avant qu'il ne se blesse, versus les Rams de 2016 de Jeff Fisher à 4-9, puis virés, menés par le génial Keskinom. Les deux étaient horribles. Ceux de Bradford, parce que j'ai un petit soft spot pour Bradford.
Ouais, moi, j'aurais pris ceux de Case Keenum, parce qu'il y avait déjà Aaron Donald à l'époque. Je suis pas sûr pour le Bradford à 7-9. Donc,
Ah oui, non, je voulais dire que Bradford perd, ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Question de la cage aux Falls. On va terminer là-dessus. On est à la moitié de la saison, l'heure du Super Bowl fou. On va commencer. Le Super Bowl dingue, si tu dois pronostiquer aujourd'hui. Alors attends, je vais sortir mon classement équipe borderline playoff.
Eh ben, moi, je vais te dire Ravens, Eagles.
Hey, pas mal. Pas mal, pas mal. Les Colts, avec du gros jeu au sol et de la défense bien coachée, un Jacoby Brissett qui sort de sa tanière. Ouais, Colts, Eagles, ça peut être bien fou. Ouais. Wow, Colts, 49ers. Ouais, mais c'est pas fou si je dis 49ers, parce qu'ils sont à 7-0.
Ouais, donc, je sais pas.
Colts Vikings. Colts Vikings, porté par la défense, par Dalvin Cook, tout ça, ça peut être pas mal. Voilà donc pour l'épisode numéro 316 du podcast Engine Actu. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On tous les dimanches, avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs et des bières Bucket avec 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, toutes les rencontres. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TheJeanActu en entier, Raphaël _TDA sur Twitter pour Raphaël, @Atalamatei pour moi-même. Merci beaucoup, Raphaël.
Eh bien, merci à toi.
On se retrouve mardi prochain pour un autre débrief ensemble. Moi, je serai avec Raoul ce jeudi pour la preview des matchs de la semaine 9. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao!
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on